Voilà, donc on va commencer un cycle de conférences sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La théologie du corps, c'est pas une réflexion simplement de morale, c'est une considération un peu haute de Jean-Paul II sur la question du mariage, sur la question du corps et sur mille et une questions annexes qui vont tourner autour de cela. L'expression théologie du corps vient de Jean-Paul II, et ce qu'il veut dire, c'est que c'est une réflexion à partir de ce que Dieu nous donne. C'est ça la théologie. La théologie, c'est une réflexion à partir du donné révélé. Dieu nous a parlé dans la Bible. À partir de ça, on fait un discours, un logos, avec Dieu comme objet et source, un théos. Donc ça fait de la théologie. Voilà. Et Jean-Paul II a voilà, essayé de construire une pensée, commentaire, si on peut dire, personnel, de différents passages bibliques qui parlent de cette réalité du mariage et du coup de l'être humain qui se marie. Ou pas. Il y a la virginité consacrée aussi dont il parle. Ce qu'on appelle aujourd'hui théologie du corps, c'est ça, c'est la compilation de nombreuses conférences, petits mots, que Jean-Paul II a prononcées lors des Angélus du mercredi. Il est de coutume que le pape fasse un petit point de caté, et Jean-Paul II a fait 129 catéchèses sur ce thème-là, avec différents sous-thèmes, et c'est ce corpus qu'on appelle théologie du corps, et que lui entendait appeler théologie du corps. Ce sont 129 catéchèses de 15 minutes, donc ça fait 30 heures de cours, donc ça fait un bon cours. Et ça s'arrête là, c'est pas pire que ça. On va faire ça. Les catéchèses, il les a prononcées entre 79 et 84, donc il est élu en 78. Assez tôt, il va commencer ses catéchèses, et il les commence aussi parce qu'il a suscité dans l'Église, il a convoqué les évêques pour bosser un peu sur la question de la famille, les tâches de la famille dans le monde contemporain. Et du coup, il y a un travail préparatoire à la réflexion des évêques, au synode des évêques sur la famille, qui se déroule à Rome. Et le pape, en parallèle de cette réflexion, de ces travaux préparatoires, le pape va faire ses catéchèses. Il dit lui-même qu'il n'entend pas influencer les évêques qui sont en pleine réflexion, mais qu'il veut accompagner, pour ainsi dire, de loin, en tournant nos regards sur les racines profondes de la réalité familiale. Ça, c'est dans la première catéchèse que le pape annonce la couleur. Pas influencer les débats, parce qu'il ne va pas parler des tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, thème d'étude donné aux évêques, mais il parle de la famille en général, pas forcément contemporaine, la famille éternelle, intemporelle. Et du coup, il va donner un éclairage, on pourrait dire plus haut, et différent pour permettre aux évêques qui sont en réflexion d'avoir du grain à moudre, d'avoir quelques munitions pour travailler. Et puis, ça lui permet de développer sa propre pensée et de l'offrir, si on peut dire, à son public, qu'est le monde entier. La pensée de Jean-Paul II sur la question de la famille préexiste à son élection comme pape. Si vous connaissez un petit peu sa biographie, vous savez qu'il a été prof de morale, donc aussi de morale conjugale, à l'université de Lublin, en Pologne. Il a été avant, peu de temps, mais il a été vicaire de paroisse, responsable des jeunes et étudiants de la paroisse. Et puis après, comme prof, il a continué de faire ce qu'il faisait en tant que vicaire, c'est-à-dire faire des petites balades avec les étudiants, aller offrir des week-ends aux étudiants polonais qui sont tout à fait dans l'âge du mariage ou de la préparation au mariage. Et puis, on va faire quelque chose de sportif et après, on discute. Il y a plein de photos de Jean-Paul II que vous connaissez, Jean-Paul II en kayak, Jean-Paul II à ski, Jean-Paul II, etc., dans toutes les tenues sportives possibles et imaginables. C'était lors de ses excursions avec les jeunes. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça aussi? C'est parce que nous sommes en Pologne, sous régime communiste, et que la liberté d'expression, comme la liberté de réunion, ne figure pas au menu du régime. Donc, interdiction de se réunir, interdiction de faire du cato, interdiction de faire de la subversion. Comment faire pour pas se faire choper? Eh ben, on va dans les montagnes. Là, il n'y a pas de micro. Voilà. Et on n'y va pas ensemble. Donc on se donne rendez-vous au point d'arrivée. Chacun se débrouille pour venir en vélo, en train, en stop. On ne veut pas savoir. À tel moment, à tel endroit, on forme le groupe et puis on va se balader. Et là, on peut se poser et parler. Donc c'est ça un petit peu l'origine de ces promenades de Jean-Paul II avec les étudiants. Et puis, il va beaucoup parler, écouter les jeunes et leur parler d'amour humain. Un petit peu révolutionnaire hein, à l'époque, mais en tout cas, il a vraiment tout ce bagage derrière lui lorsque, quand il devient pape, peut offrir voilà, toute sa réflexion là-dessus. Et puis, il se rend compte comme pape, peut-être un petit peu avant, ça je ne sais pas, que ce qu'il pratiquait en Pologne ne se fait pas forcément dans le reste du monde. Ce qui se pratiquait en Pologne, c'était la préparation au mariage. D'autres pays le faisaient. La France ne le faisait pas des masses. Et d'autres pays voilà, ne le faisaient pas du tout. Et Jean-Paul II, une fois arrivé comme pape, va imposer, si on peut dire, la préparation au mariage. Il va donner quelques axes, mais il va dire qu'il est fondamental de faire une préparation au mariage. Même si le mariage est quelque chose de naturel, donc on ne va pas vous expliquer des choses naturelles, puisque on est blessé par le péché originel, et puis qu'on est pourri mentalement par la société dire moderne, occidentale, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de consommation hédoniste, eh bien, les évidences n'en sont plus. Et il va falloir réapprendre aux jeunes les évidences. Donc, Jean-Paul II fait ses catéchèses, les évêques réfléchissent. Jean-Paul II pondra un texte avant la fin de ses catéchèses, au milieu des catéchèses, une fois que le synode sur la famille a eu lieu, il va faire une exhortation apostolique post-synodale, un texte de conclusion, où il reprend les travaux des évêques et il les reprend en tant que pape, où il dit ce qu'il veut. Il commente, et le seul texte qui a autorité, c'est le texte du pape, fourni, plongeant ses racines dans la réflexion des évêques. Et du coup, en 1981, il va sortir Familiaris Consortio, l'exhortation apostolique post-synodale sur les tâches de la famille chrétienne dans la société contemporaine. Et dans cette exhortation apostolique, on peut lire justement cette idée de la préparation au mariage. Il dit « De nos jours, la préparation des jeunes au mariage et à la vie familiale est plus nécessaire que jamais. Dans certains pays, ce sont encore les familles qui, selon d'antiques usages, se réservent de transmettre aux jeunes les valeurs concernant la vie matrimoniale et la famille, par un système progressif d'éducation ou d'initiation. Mais les changements survenus au sein de presque toutes les sociétés modernes exigent que non seulement la famille, donc on ne retire pas le rôle de la famille, mais aussi la société et l'Église soient encouragées dans l'effort de préparation adéquate des jeunes aux responsabilités de leur avenir. Beaucoup de phénomènes négatifs que l'on déplore aujourd'hui dans la vie familiale viennent du fait que dans les nouvelles situations, les jeunes ont perdu de vue la juste hiérarchie des valeurs et que, ne possédant plus les critères sûrs de comportement, ils ne savent plus comment affronter et résoudre les nouvelles difficultés. L'expérience enseigne pourtant que les jeunes bien préparés à la vie familiale réussissent en général mieux que les autres, etc. Donc, la volonté du pape, elle est d'aider les petites brebis, les jeunes brebis, à pouvoir vivre la réalité du mariage et de la vie familiale. La famille a son rôle, la société a son rôle, l'Église aussi a un rôle à jouer. L'Église va avoir le rôle de l'éclairage le plus haut possible, donc l'éclairage théologique. Commençons. Si je vais vous dire quelques thèmes, comme ça vous aurez un peu le programme, qui se cachent dans la théologie du corps. Donc il y en a, j'ai pas fait la liste, j'ai repris rapidement le sommaire, ça se trouve il y en a d'autres. La relation au corps, la pudeur, la communion charnelle et spirituelle, la maternité, la concupiscence, l'adultère, la pureté et ses bienfaits, la résurrection des corps, la virginité pour le royaume, le mariage comme sacrement, le mariage comme imitation du Christ, le mariage comme alliance, l'amour humain à travers la Bible, notamment le Cantique des Cantiques, commentaire, l'amour humain dans le magistère, surtout Manévité de Paul VI, le contrôle des naissances et le contrôle de soi, le respect de Dieu à travers le mariage qui est son œuvre, et sans doute, etc. Donc on va commencer les réflexions même de Jean-Paul II. Et j'ai eu bien du mal à trouver un plan, s'il y en a un, je ne sais pas, peut-être qu'à la fin j'aurai compris quel est le plan. J'essaie de vous traduire du slave en occidental, en latin. Il pense de façon assez particulière. c'est intéressant à lire, à écouter, je ne sais pas si c'est aussi fluide. Donc j'essaie de vous traduire du Jean-Paul II, tant bien que mal. Et comme ce sont des commentaires bibliques, voilà, il y a peut-être un plan qui m'échappe. Il n'empêche qu'il y a quand même pas mal d'idées qui ne m'échappent pas et que je peux vous commenter. Et vous verrez qu'il il lance plusieurs réflexions. Voilà. Et puis, bah, vous attrapez les réflexions au vol, vous les faites vôtres. Et puis, c'est ça qui va constituer, si on peut dire, un petit peu l'enseignement de la théologie du corps. La première idée que Jean-Paul II souligne, le premier mot qu'il commente, c'est « à l'origine ». Jean-Paul II part et commente le premier texte, comme premier texte, l'altercation de Jésus avec les pharisiens dans Saint Matthieu chapitre 19, où les pharisiens viennent, vous savez, l'embêter sur les questions du mariage, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif, etc. Et la loi de Moïse permet, etc., en cas d'adultère, on peut jeter sa femme, en prendre une autre, très bien. Et Jésus leur répond, Moïse a répondu cela à cause de votre dureté de cœur, mais à l'origine, il n'en fut pas ainsi. Et Jean-Paul II, il prend ce mot-là, à l'origine, en disant, mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous faire? De quoi parle-t-il? Pourquoi est-ce que Jésus prend cette référence-là, de l'origine, quand on lui parle du mariage? On se rend compte que Jésus, il ne va pas répondre aux pharisiens en tombant dans le piège, et puis en faisant ce qu'on va appeler, nous, de la casuistique, c'est-à-dire répondre au cas par cas. Vous m'expliquez tout votre cas, et puis je vous réponds, et puis après vous le compliquez en disant, oui, mais si, alors on change l'hypothèse, on change la conclusion, enfin, et on peut continuer sans cesse à couper les cheveux en quatre. Jésus, il répond pas à la question des pharisiens, par de la casuistique, il répond pas à leurs questions propres, il remonte plus haut, il va redonner les grands principes. Voilà. Il explique l'esprit de la loi. Et puis, une fois que vous avez pigé l'idée de Dieu, normalement, vous comprenez comment l'appliquer. Il va remonter à ça, cette pensée originelle de Dieu. À l'origine, qu'est-ce que Dieu avait dans la tête? Qu'est-ce que ce mot à l'origine suppose? Ça suppose qu'après, il y a eu un changement. Vous connaissez comme moi, Genèse chapitre 3, péché originel. N'empêche que c'est chapitre 3. Avant, il y a Genèse 1 et Genèse 2. Donc le pape, après, va aller chercher forcément dans l'origine. Qu'est-ce qui se passe à l'origine? Cette question de l'origine donc renvoie au plan A de Dieu, ce que Dieu a dans la tête avant que le péché originel n'intervienne. Jean-Paul II signale aussi que si Jésus se permet de renvoyer à l'origine pour expliquer à ses contemporains la question du mariage, ça veut dire que l'origine est toujours d'actualité. Genèse 1, Genèse 2, la création telle que Dieu l'a faite a été cassée, d'accord? Mais on ne met pas la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait? On répare. Voilà. Dieu n'a pas renoncé à son projet, il a envoyé un sauveur. Le diable a tout cassé, et ben on va tout réparer. Voilà. Mais on ne renonce pas à cela. Donc, le fait de pouvoir encore faire référence à l'origine de façon contemporaine, à l'époque de Jésus et à notre époque encore, hein, c'est toujours valable, on est toujours sous l'ère du péché originel qu'on est en train de réparer, ça veut dire que la restauration est en cours et que la restauration est possible. Que Dieu n'y renonce pas et qu'on va y arriver. Et que l'état de justice originelle, de sainteté originelle, de pureté originelle d'Adam et Ève est encore aujourd'hui atteignable et jouable. On ne dit pas facile, on dit possible. Et du coup, on se rend compte à travers cette référence à l'origine donnée comme argument, qu'on peut compter sur l'aide de Dieu. Dieu répare. Dieu refonde, comment dire, remet en œuvre d'une autre façon l'idée originelle qu'il avait. Donc, on est dans le plan B, peut-être, mais on est toujours avec le même but à atteindre. Donc, nous aussi, on doit garder ça toujours à l'esprit, en se disant que rien n'est terminé, rien n'est fichu, mais que le Seigneur est en train de restaurer son œuvre. Maintenant, tout n'est pas comme à l'origine, hein, c'est un cours de restauration. Donc ça grince un peu, c'est pas encore tout à fait d'équerre, mais ça va venir, c'est en cours. Voilà. Jean-Paul II, oui, va parler de l'origine comme étant la préhistoire théologique révélée. Je vous le dis, comme ça vous aurez entendu sa petite formule. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est révélé, donc c'est pas constaté. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'homme est tordu. On constate, comme saint Paul, qu'on fait pas le bien qu'on voudrait faire, on fait le mal qu'on voudrait pas faire. Nous sommes nous-mêmes tordus, cabossés. Et Et on voit que un monde de tordus. Je suis tordu, tout le monde est tordu. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si ce monde-là est le monde sorti des mains de Dieu, Dieu est infréquentable. Il faut le fuir. C'est un gros pervers. Partons, mes frères. Maintenant, la révélation vient nous dire que ce que nous constatons n'est pas ce que Dieu a fait. Donc, théologiquement, de la part de Dieu, la révélation nous dit qu'il y a une préhistoire, qu'il y a un monde avant notre monde. Voilà. L'histoire dans laquelle nous vivons, l'humanité qui se transmet de génération en génération, n'est pas ce que Dieu a fait. Il y a quelque chose qui se planque avant. Donc, à nous d'accepter voilà, cette réalité-là, même si on ne la constate pas, elle nous est dite. Et ça nous permet de ne pas désespérer ni de nous, ni de Dieu, et de continuer à fréquenter Dieu, qui a fait de belles choses, est en train de les restaurer d'une façon, la liturgie dit, plus merveilleuse encore. Donc, à nous de retenir ça. Entre-temps, on est dans ce qu'on va appeler le combat spirituel. On est entre un tiraillement entre ces deux états d'âme, ces deux états d'être, unis à Dieu, saints, et puis séparés de Dieu, tentés, boitants, dira la Bible, fait un pied stable, un pied sur lequel on peut pas trop s'appuyer. Alors après, les prophètes vont jusqu'à dire que le peuple hébreu, il boite des deux pieds. Au moins, c'est clair. Ça, c'est quand vraiment le peuple est infidèle. Il a un petit peu dépassé la mesure. Ça commence à bien faire. Mais en tout cas, on est toujours un petit peu dans cet état-là. Qu'un cas, et ben c'est la vie. La philosophe Simone Veil elle disait qu'on est entre la pesanteur et la grâce. Saint Paul, lui, il dit autre chose. Il dit « Nous possédons, dès aujourd'hui, les prémices de l'Esprit-Saint. Nous gémissons ainsi intérieurement dans l'attente de la rédemption de nos corps. » C'est en cours de restauration. Mais ça va venir. Le mot « à l'origine » et le fait que Jésus y fasse référence, ça veut dire aussi que ce qui est révélé à l'origine est toujours valable. Ce qui est révélé à l'origine du couple humain et de l'être humain, ce qu'on va découvrir dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, sont des réalités intemporelles et sont toujours valables aujourd'hui. Au moins comme vocation, au moins comme point à atteindre, au moins comme identité fondamentale à retrouver. Donc, il y a voilà, des grandes vérités qui nous seront données et qu'on peut encore transmettre. Jésus rappelle la Genèse. Jean-Paul II va donc aller chercher le texte de la Genèse. Et il dit que quand Jésus, puisque Jésus donne à la Genèse, c'est l'interprétation de Jean-Paul II, hein, une certaine autorité, on peut lire le commandement de la Genèse, enfin, la petite phrase de la Genèse, comme un commandement. L'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme. Jean-Paul II dit, ce n'est pas descriptif, c'est pas le constat, bah oui, l'homme quitte son père et sa mère, et il s'attache à sa femme, tous deux ne feront plus qu'un, c'est très bien, c'est ce qu'on constate, mais il dit, ça a une portée normative, c'est un commandement, c'est un ordre que je vous donne. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, point final. En disant qu'il y a une volonté réelle de Dieu là-dedans, vous voyez, c'est pas simplement un constat que Dieu fait, ah bah tiens, j'ai fait Adam et Ève, ah bah ils partent ensemble, bon bah, allez-y, hein. Mais un commandement, voilà. J'ai fait Adam et Ève pour qu'ils aillent ensemble. Nah. Pourquoi pas? Saint Jean-Paul II l'a dit, on peut au moins dire que c'est pas faux. La volonté réelle, positive, je sais pas comment dire, forte de Dieu, a été faire de l'être humain, homme et femme. En Genèse 1, la première fois, enfin pareil, en français, c'est très mal traduit, et même moi, de temps en temps, on verrait que je me plante, parce que on n'a pas assez de mots, et on ne traduit pas toujours exactement ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des langues plus riches que la nôtre. Donc, on dit que Dieu créa l'homme et la femme. En Genèse 1, 27, tel que c'est dit, Dieu créa le mâle et la femelle. Voilà. C'est pas encore homme et femme. Il a fait oui, l'homme mâle, et la femme femelle, Zakar et Keba. On n'est pas encore ni dans Adam et Ève, ni dans Is et Issa. Voilà. Et puis, ça marque bien l'identité sexuée, mâle et femelle. C'est ça que Jean-Paul II souligne dans ce texte de la Genèse. Et curieusement, ça c'est le génie de Jean-Paul II, il dit que cette différence des sexes, mâle et femelle, n'est précisée dans la Bible comme ça que pour l'espèce humaine. Alors que c'est ce qu'on partage avec tout le monde animal. Donc, on aurait pu signaler la spécificité à la création de l'homme et de la femme, leur côté plutôt intello. Eh ben non, c'est le côté sexué qui est mis en avant pour dire ce que Dieu crée. À l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça qui nous est donné. Donc c'est assez étonnant de voir que cette ressemblance de Dieu, telle qu'elle est annoncée par la Bible, se fait non pas dans le côté immatériel, mais dans le côté matériel et dans le côté sexué. Bing. Vous comprendrez après pourquoi, si vous ne le savez pas déjà. Jean Bolle montre aussi que bien que corporel, donc matériel, dans le monde matériel, participant du monde matériel, l'homme n'est jamais dit être à la ressemblance des animaux. Alors que franchement, nous, on se dit, nous sommes un animal raisonnable. C'est vrai. Mais dans la Bible, on n'insiste pas là-dessus. La seule ressemblance qui est précisée dans la Bible, c'est la ressemblance avec Dieu. L'homme est un animal sexué qui ressemble à Dieu. Waouh ! Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Et du coup, alors il y a aussi une part spirituelle. Dieu souffle, d'accord ? Il donne un souffle de vie, une haleine de vie. Mais en tout cas, ce que la Bible semble indiquer, que Jean-Paul II zoome, passe à la loupe, c'est le fait que l'identité sexuée et la complémentarité des sexes donnent à l'homme d'être à l'image de Dieu. Et donc, il va définir, à la suite de Vatican II, et lui, il passe au stabilo, dans cette exhortation apostolique et dans d'autres, l'expression « communion de personnes ». Le mâle et la femelle sont faits pour aller l'un dans l'autre. Je répugne toujours à vous traduire les mots hébreux, mais vous savez, je vous l'ai dit, je vous le répéterai en sermon, que l'hébreu est une langue extrêmement concrète et prosaïque. C'est pas du tout une langue de concept, ça c'est le grec, c'est une langue de terrien. Donc, mâle et femelle, ça se dit zakar, le bâton, et keba, le trou. Vous devinez vous-même. Mais en tout cas, il y a une complémentarité des deux qui est bien mise en évidence aussi là-dedans. Donc, ce lien unissant les personnes, cette union possible et correspondance physique possible, renvoie ou manifeste, je ne sais pas comment dire, que l'homme, l'être humain, est créé pour être une communion de personnes. Que l'homme et la femme, le couple qui est... créé par Dieu, qui sort des mains de Dieu, est fait pour être une communion de personnes. C'est comme ça que Vatican II, donc c'est Gaudium et Spes, paragraphe 12, définit le couple humain. Vous avez un petit peu de catéchisme derrière vous. Quand je vous dis que c'est une communion de personnes, normalement, vous pensez à la Trinité. La Trinité est une communion de personnes. Voilà. Donc, c'est en cela que le couple humain va être à la ressemblance de Dieu. Après, je peux vous spoiler la fin, c'est que je vous l'ai peut-être déjà dit 10 fois, et je dirai 200 fois, c'est le couple plus les ordres donnés par Dieu. Croissez, multipliez-vous, communion de personnes, deux personnes, qui en communion en engendrent une troisième. Et là, vous avez compris que c'est vraiment l'image de la Trinité. Voilà. Le Père et le Fils qui engendrent tous les deux le Saint-Esprit, qui est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Et le lien d'amour qui n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Bah, c'est la définition de l'enfant si on veut lui appliquer le vocabulaire théologique. Du coup, il y a une vraie ressemblance, voyez, avec Dieu, Trinité et amour, dans le fait d'être corporellement complémentaire. Voilà, c'est ça que Jean-Paul II veut dire. J'espère l'avoir dit dans le meilleur français possible. Ensuite, Jean-Paul II change de mot à commenter, et puis il va s'interroger sur la solitude d'Adam, parce qu'il y a deux récits de la création. Un récit de la création où Dieu fait tout en 7 jours, 6 jours, enfin 5 jours pour faire toute la création matérielle, la nature. Le 6e jour, Adam et Ève. Le 7e jour, repos. Et puis, il y a un deuxième texte, Genèse 2, où la création est présentée autrement. Dieu fait Adam. Pour Adam, il fait toute chose. Donc, on fait Adam, on lui met une planète sous les pieds, des arbres à côté, de la lumière au-dessus, enfin... Et puis Adam nomme toute chose, regarde toute chose, applaudit à toute chose et s'ennuie profondément parce qu'il ne trouve pas l'être qui lui correspond. Et puis, alors, on va endormir Adam. De son côté, on tire la femme, on le réveille, il s'esbaudit Et c'est parti, le couple humain est fait. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est ça qu'il me fallait. Et il convole au juste noce. Donc, Jean-Paul II, il va se focaliser maintenant sur la solitude d'Adam qui attend son complémentaire. En disant que Adam n'est appelé dans la Bible homme et mâle, comme mâle, qu'après la création de la femme. Quand je vous ai parlé de Zachar et Kéba, c'est ceci. Enfin, dans ce récit-là, il ne devient homme que une fois qu'il y a la femme. Avant, il n'est pas distingué comme mâle, en tout cas. Jean-Paul II dit donc que l'interprète comme ça, la solitude de l'homme n'est pas bonne, non pas en tant qu'individu de l'espèce, il n'est pas bon que l'homme soit seul sur Terre, il s'ennuie tout seul, il faut des petits camarades, mais en tant qu'être sexué, il n'est pas bon que l'homme reste célibataire. On pourrait le traduire comme ça. La complémentarité des personnes, dans la complémentarité des personnes, se joue le bonheur de la personne humaine. L'homme, l'être humain, est à la recherche de l'être qui lui correspond. Et puis, quand on a trouvé l'être qui nous correspond, on trouve aussi... Une fois qu'on a trouvé l'être qui nous correspond, on trouve aussi qui nous sommes. L'autre va nous dire, nous révéler qui nous sommes et nous permettre de exprimer. On trouve la réponse à la quête de la définition de soi-même dans la correspondance avec l'autre. Jean-Paul II dit qu'il y a aussi une autre relation qui existe dans le récit de la création. C'est pas que la relation avec la femme, c'est aussi la relation avec Dieu. Et du coup, il y a une deuxième solitude, si on peut dire, qui n'est pas bonne pour Adam. C'est aussi le fait d'être sans Dieu. C'est pas bon. Il dit que la nature humaine comporte non seulement une dimension d'autoconscience, prise de conscience de soi, mais aussi d'autodétermination, parce que l'homme va être laissé libre d'agir et de se déterminer par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit que la solitude originelle de l'homme, le fait que Adam s'ennuie, le pose aussi face à Dieu comme pouvant vaincre sa solitude dans le rapport avec Dieu. Je ne sais pas si on peut traduire comme ça, mais que ça fait de l'homme, cette solitude qui a besoin d'être comblée, le partenaire de l'absolu, le sujet de l'alliance, la personne qui peut rentrer aussi en contact avec Dieu. Ce qui n'est pas dit des animaux, même si les animaux, eux, ils sont créés en couple, donc ils sont peut-être plus tranquilles. Après, il y a le travail, on peut laisser... l'homme va aussi contempler son corps, prendre conscience de qui il est. Ses mains vont lui dire à quoi est-ce que tu sers. C'est le deuxième commandement que Dieu donne au couple humain. Dominez la terre, soumettez-la. Et puis, l'homme va aussi constater qu'il est sexué et va aussi se demander à quoi ça sert. Et ça va l'orienter vers l'autre personne. Premier commandement. Oui, commandement de Dieu au couple humain, croissez, multipliez-vous. Deux dimensions, si on peut dire, de la vocation humaine et du coup de spécificité, on pourrait dire, que l'homme a et doit réaliser dans sa personne. Après, Jean-Paul II fait une réflexion aussi sur la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Si vous en mangez, vous mourrez. Il y a la question de la mort qui est évoquée, alors que Adam et Ève n'ont pas l'expérience de la mort. Et Jean-Paul II dit, ils n'ont pas besoin de faire l'expérience de la mort pour savoir ce que c'est. Ils peuvent comprendre la mort comme étant la privation de tout ce qu'ils connaissent, de toute la vie. Ils connaissent la vie, la mort c'est l'antithèse de la vie. Donc connaissant tout le bien qu'ils ont, ils peuvent imaginer ce que c'est que la mort. Ils n'ont pas besoin d'en faire expérience pour le comprendre. Pourquoi c'est intéressant, où je passe pas sur ce petit paragraphe, qui se rattache à rien d'après moi, ou j'ai pas compris, c'est parce que c'est vrai au niveau spirituel. La Vierge Marie n'a pas besoin de connaître le péché pour savoir ce que c'est. Voilà. Après, elle l'a constaté chez les autres, elle a croisé des pécheurs, donc elle a bien vu. Mais n'empêche que on n'a pas besoin de faire l'expérience du mal pour savoir ce que c'est que le mal. Le mal est la privation du bien. Vous connaissez le bien, vous en déduisez le mal. Si vous savez ce que c'est que avoir la pleine conscience de soi-même, et ben vous n'êtes pas obligé de vous shooter à l'héroïne pour savoir ce que c'est que ne pas avoir la pleine connaissance de soi-même. Vous pouvez imaginer ce que c'est que d'être privé de ses sens et de sa conscience. Voilà. Ensuite, Jean-Paul II va attaquer le thème de l'unité, la complémentarité des personnes. Il va dire que puisque Dieu fait homme et femme, il les créa et vit que c'était très bon, c'est pas trompé en faisant ça. Hommes et femmes sont comme deux incarnations de la même humanité. C'est deux façons d'être être humain. C'est deux façons aussi, dira Jean-Paul II, d'être corps. C'est deux façons d'être une personne créée à l'image de Dieu. Dans la Bible, ça se dit Is et Issa à ce moment-là. Donc, on a toujours le masculin et le féminin, mais de la même espèce. Voilà. L'espèce Is, Monsieur Is et Madame Issa. Voilà. C'est bien la même chose, mais en deux déclinaisons. Voilà. Il dit aussi que être homme ou être femme, c'est deux consciences complémentaires de la signification du corps. Voilà. Le regard que l'homme porte sur la corporéité et le regard que la femme porte sur la corporéité sont tous les deux vrais et complémentaires. Parlez-vous, vous verrez, vous ne considérez pas les choses de la même façon. Et les deux sont vrais. Ensuite, Jean-Paul II va commenter la torpeur dans laquelle est plongé Adam. Jean-Paul II la traite comme un retour spécifique au non-être. On fait basculer dans l'oubli de tout, et Adam va se réveiller comme s'il était créé à nouveau. C'est comme si on appuyait sur reset et reload. Hop là, Adam va se réveiller comme si c'était le premier jour de sa vie, et il tombe sur Ève. Voilà. Et là, il oublie tout ce qu'il y avait avant. Il n'y a plus de solitude, il n'y a plus de tout ça. Il s'est découvert seul dans la première partie de sa vie, avant qu'on appuie sur reset. Maintenant, il va se découvrir comme complémentaire. Et c'est une deuxième réalité de l'être humain. Il est à la fois seul et complémentaire. Donc, Adam va faire cette deuxième expérience, si on peut dire, et va trouver voilà, l'être qui lui correspond. En sumérien, c'est aussi une langue de la même région, alors c'est pas de l'hébreu, mais sachez que côte et vie sont le même mot. Donc Dieu a tiré Ève du côté d'Adam, de la côte d'Adam, ou de la vie d'Adam. Il a pris de la vie d'Adam pour faire de la femme. Enfin, voilà. Mais il y a un peu plus que côtelette en dessous. Voilà. Et puis après, il y a aussi cette phrase, pour le coup, hébraïque. Jean-Paul II dit, difficile à traduire, je vais lui donner une aide qui soit semblable à lui. Ça semble être la plus grande traduction, la phrase, c'est Césaire Enegdo. Donc vous traduirez ça ce soir avec un dictionnaire hébraïque, ce que j'ai pas fait. Et en tout cas, Jean-Paul II dit que ça signifie à la fois la complémentarité, il lui faut une aide, et puis la similitude, il lui soit semblable à lui. Voilà. Débrouillez-vous avec ces deux choses qui paraissent un petit peu antinomiques. Voilà. C'est pareil et complémentaire, donc différent. Voilà. Les deux choses sont vraies. On désigne souvent autrui comme un alter ego, un autre moi-même, un autre que moi-même et un autre moi-même. Débrouillez-vous, c'est exactement la même idée qui se cache derrière. Continuons sur le principe d'unité. Ça, c'est pas du français. Enfin, si. Cette idée d'unité de l'homme et de la femme, Jean-Paul le dit que l'homme devient un peu plus à l'image de Dieu lorsque cette unité se joue, que lorsqu'il était tout seul. Lorsqu'il est tout seul en tant qu'individu, Il est à l'image de Dieu parce que Dieu est un. Dieu est le Dieu un. Enfin, il y a un seul Dieu. Voilà. Donc la solitude peut manifester une réalité divine, l'unicité de Dieu, mais la complémentarité, surtout trinitaire, là, avec le petit troisième, révèle davantage, plus précisément, mieux, la réalité divine. Voilà, parce que Dieu, il est un, mais en trois personnes. Et le savoir en trois personnes, c'est savoir plus que de savoir qu'il est un. Donc la révélation chrétienne est plus complète que la révélation judaïque. Voilà. C'est ça qui se cache derrière. Mais en tout cas, il y a ça aussi que Jean-Paul II voilà, glisse comme message. C'est que voilà, la solitude, c'est bien, la complémentarité, c'est mieux. Après, Jean-Paul II souligne aussi que la totalité de la réalité, ce que Dieu a fait, c'est homme et femme. Ça veut dire que la somme des deux constitue le monde. L'homme a raison, la femme a raison, la somme des deux est la pleine raison. Voilà. C'est toujours ta raison, j'ai pas tort. Et il y a un enrichissement mutuel de l'un et de l'autre qui nécessite de faire la somme des deux. Voilà. Celui qui reste avec sa propre vision du monde, sa propre interprétation, sa propre compréhension de ce qu'il faut faire, etc., c'est bien, et peut-être qu'il est dans la vérité, mais il est dans la vérité partielle. S'il demande à côté le complément, il obtient le reste de la réalité. Hein. Au fiancé, dit toujours, l'homme voit ça, la femme voit ça. Donc vous avez bien un 360 degrés si vous faites la somme, et quand vous parlez, vous ne savez absolument pas de quoi l'autre veut parler, parce que c'est précisément tout ce qui vous échappe. Donc, amusez-vous, bon courage. Mais en tout cas, il y a vraiment besoin de se rendre compte que même si je ne le perçois pas moi-même, il y a bien quelque chose voilà, qui m'échappe et que l'autre perçoit. Voilà. Dieu a fait exprès, il est trinitaire, il nous a fait à son image, il a vu que c'était bon. Enfin, c'est pas une blague, c'est vraiment pour servir. Du coup, quand on a conscience de ça, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de faire la somme des deux, dans le couple, évidemment, et puis aussi plus largement que ça, dans l'humanité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors c'est vrai aussi dans la piété masculine plus la piété féminine font la piété humaine, donc il ne faut pas se reprocher de ne pas prier de la même façon, vous pouvez enfermer une femme 3 heures dans une église, elle dit le rosaire, elle ne s'ennuie pas, un homme, si vous voulez qu'il dise le rosaire, vous lui donnez 40 km à faire, parce qu'il faut qu'il bouge. Et puis, voilà, l'homme, il vous demandera qu'est-ce que je peux faire avec une truelle dans la main, en disant alors, quand est-ce qu'on a reconstruit cette chapelle, et puis la femme dira quand est-ce qu'on la décore. Bon, voilà. Et on a besoin des deux. Voilà, d'abord les murs, après le décor. Et du coup, il y a vraiment une complémentarité aussi dans la piété, une piété plus active et une piété plus contemplative. Mais les deux existent et sont nécessaires. C'est vrai au niveau spirituel, c'est vrai aussi au niveau purement psychologique, compréhension du monde. Et aujourd'hui, le pape François nous dit, ça doit être vrai aussi dans la gestion de l'Église. Quand il parle de donner aux femmes une place dans l'Église, et une place même décisionnelle dans l'Église, c'est ça. Jouons la complémentarité, ne restons pas avec la moitié simplement du monde, la moitié de la compréhension du monde. Si on reste entre vieux garçons, ça ne suffit pas, il faut absolument des vieilles filles pour nous aider, voilà. Et aussi des couples, etc. On a besoin d'un double regard. Là où je souhaite bon courage au pape François, c'est si jamais il veut l'institutionnaliser et dire qui occupera quel rôle. Voilà. Un peu comme voilà, l'archevêque de Paris sera cardinal. S'il décide que la mère abbesse de Fulda devient conseiller du pape, je pense que ça compliquera les choses. Comme aujourd'hui, on fait attention à qui on met à Paris parce qu'il sera cardinal ipso facto. Après, on devra être terrorisé pour savoir qui est-ce qu'on met à Fulda parce que elle sera conseiller du pape. Donc, pourquoi pas, je lui souhaite bien du courage sur la mise en œuvre, surtout qu'il reste pas trop précis, à mon sens. Mais en tout cas, il y a une réelle complémentarité qui doit se jouer et qui s'est déjà jouée dans l'histoire de l'Église. Si vous regardez qui est-ce qui a ramené les papes d'Avignon à Rome, c'est Sainte Catherine de Sienne. Hein. C'est pas un mec. Hein, j'ai pas compris que c'était un mec. Par ses écrits, par son exemple, par sa piété, sa prière, etc., elle a fait quelque chose dans l'Église. Et c'est elle qui a compris où était le problème, si on peut dire, de cette multiplicité des papes en Avignon. Les hommes, eux, ça leur allait très bien. On partageait le pouvoir, après tout. Chacun s'octroyait le pouvoir. C'était merveilleux. Mais du coup, ça a déjà existé. Le pape François parle de jouer un petit peu plus cette carte-là et d'essayer de comprendre comment on fait. Et en soi, c'est pas mauvais. Non, tant pis. Vous regarderez aussi Danse avec les loups, le chef indien qui demande à sa femme ce qu'il doit décider. C'est exactement ça. Je trouve la scène excellente. Donc, vous la repasserez en boucle, vous comprendrez comment doit marcher un bon chef. Voilà. Savoir ce que pensent les femmes quand elles puisent de l'eau. Jean-Paul II continue aussi en disant qu'en Genèse 2,24, lorsqu'il est dit que l'homme s'attachera à sa femme, on peut mettre derrière ce possessif un vrai choix, voilà, une décision, une prise en charge de l'autre. Alors que Adam et Ève, d'une certaine façon, Adam, il n'a pas le choix, hein, il n'y a qu'une femme. Alors, de toute façon, il va s'attacher à sa femme, c'est celle-là. Hein. Il n'y a pas un grand choix qui lui est offert, mais la Bible aurait pu tourner, il est vrai, la phrase d'une autre façon. Il s'attachera à la femme qui lui correspond, à Ève, parce qu'elle s'appelle Ève, parce que voilà. La Bible a écrit, il s'attachera à sa femme, Jean-Paul le dit. Donc, on peut y voir l'expression d'un choix où l'homme voilà, exerce sa responsabilité et sa liberté de s'engager envers telle personne. Voilà. Forcément, la réciproque est vraie, la femme a aussi le droit de choisir son homme. Il y a, d'une certaine façon, et dans l'amour, l'évidence qui s'impose, le coup de foudre, la certitude que c'est l'autre. Au-delà de ça, il faut passer à un choix personnel. Voilà un petit peu le message subliminal qui est donné. Et aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas un diktat de l'instinct, de la chair, mais aussi l'exercice de la volonté. Ensuite, Jean-Paul II continue. On était à Genèse 2,24, donc on passe à 2,25. Vous voyez, on avance. Il parle de la pudeur originelle. Jean-Paul II note que en 2,25, tout va bien, ils étaient nus et n'en avaient pas honte. Et en 3,7, après la chute originelle, ils vont se planquer et ils savent qu'ils sont nus. Et du coup, on va se coudre des petits vêtements en feuilles de figuier. Et du coup, Jean-Paul II dit que ce passage de Genèse 2 à Genèse 3, de « ils étaient nus et n'en avaient pas honte » à « ils ont peur, ils se cachent parce qu'ils savent qu'ils sont nus », il dit c'est un passage non pas de l'ignorance à la connaissance, mais un changement de regard opéré par un changement d'attitude envers Dieu, un passage de l'innocence à la culpabilité. Autrement dit, le péché ne fait pas grandir. Je passe pas de l'ignorance à la connaissance parce que j'ai péché. Ouais, j'ai gagné quelque chose. Ben non, quand tu pèches, tu perds. T'étais dans un état d'ignorance, tu passes à un état de culpabilité. Ce qui a changé entre toi, c'est pas que tu sois nu. T'étais nu avant, t'es nu après. C'est pas que tu le saches, tu l'ignorais. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte. On dit pas ils l'ignoraient. Ils étaient nus, ils voyaient pas où était le problème. Après, ils étaient nus et trouvaient ça un petit peu gênant. Ce qui a changé, c'est leur regard, leur considération des choses. Pourquoi est-ce que leur regard a changé? Parce que leur relation à Dieu a changé. Avant, ils étaient avec Dieu. L'autre était issu des mains de Dieu. Dieu m'a donné mon homme, Dieu m'a donné ma femme. Très bien, ça pose aucun problème. Après, si je me sépare de Dieu, j'ai peur de Dieu, j'ai plus le regard clair sur Dieu, et j'ai peur de l'autre. Je me défie de l'autre aussi. Qu'est-ce qu'il va me faire? On est dans la situation paranoïaque de celui qui a mauvaise conscience. Il n'est pas tranquille. Donc, Jean-Paul II dit voilà, que c'est un changement de regard, un changement de réalité psychologique. Avant, ils étaient sans camouflage l'un envers l'autre, ni envers Dieu. Pourquoi? Parce que l'autre était considéré comme un allié, une aide qui me soit semblable à moi, qui me corresponde. C'est ça qu'il me fallait. Voilà. Et puis, ni l'un ni l'autre n'avaient dans leur cœur de mauvaises intentions non plus par rapport à l'autre. L'autre est une aide et je suis une aide pour lui. Je ne vais pas le bouffer, je ne vais pas l'arnaquer, je ne vais pas voilà, bien s'entendre, c'est un bon camarade. Donc, on n'a pas besoin de planquer, on n'a pas besoin de cuirasse, on n'a pas besoin de camouflage lorsqu'il n'y a pas d'ennemi. Voilà. Ensuite, ils s'éloignent de Dieu. Et puis du coup, l'autre aussi s'éloigne de Dieu, hein, ils sont deux. Donc, je suis tordu, tu es tordu, méfions-nous des tordus. Et du coup, ils vont avoir une défiance l'un envers l'autre, et puis par rapport à Dieu, parce que bah, Dieu n'étant pas tordu, il n'est pas dans notre camp. Hein. Il va falloir se repositionner. Et du coup, Jean-Paul II dit que cette pudeur qui aujourd'hui s'exprime comme devant être pour nous, enfin, on se planque de l'autre, on n'a pas confiance, c'est une marque effectivement du péché originel ou du dévoiement du cœur humain, qui nous renvoie, toujours pareil, au plan A. C'est qu'avant, on n'avait pas besoin de ça, ou avant, notre corps pouvait être exposé, tout comme notre personnalité pouvait être exposée, parce qu'il n'y avait rien à craindre. On ne voulait pas dominer, et il n'était pas question qu'on soit dominé ou que l'autre agisse par ruse envers nous. Donc, il y a ce changement, si on peut dire, de situation par rapport à Dieu, qui change la façon d'être l'un par rapport à l'autre. Voilà. La question est, si je me montre tel que je suis devant toi, totalement devant toi, est-ce que tu vas en faire bon ou mauvais usage? Voilà. Puis-je être devant toi sans cuirasse? Puis-je être à nu? Avant, oui. Après, non. Et c'est prudent hein, de mettre la cuirasse. Parce que je suis un animal blessé, l'autre est un animal blessé. Mef. Petit à petit, on va pouvoir se dévoiler, se connaître, etc. C'est pour ça qu'il y a les accordailles, c'est pour ça qu'il y a les fiançailles, c'est pour ça qu'il y a un temps progressif de connaissance et de révélation mutuelle. Au début, forcément, on met que ses qualités en avant. Hein, et puis l'autre, en plus, il est fou amoureux, il est aveugle, tout va bien. Et puis petit à petit, quand même, le naturel reviendra au galop, et puis les défauts vont venir avec. Et puis, on va se dévoiler plus complètement. Et puis les circonstances de la vie vont nous obliger à réagir, à une réaction. Comment est-ce que je réagis à l'insulte? Comment je réagis à la frustration? Comment est-ce que je réagis à la surprise? Et là, forcément, je vais me révéler. Petit à petit, je vais me donner à connaître et l'autre va me connaître davantage. Du coup, cette révélation progressive est bonne. Voilà. Parce que, et la prudence est bonne, parce que nous sommes entre tordus et blessés. Donc, il ne faut pas être naïf, mais il faut comprendre que si on reconstruit, si on peut dire, la relation d'amour et de respect mutuel, on peut arriver à laisser tomber le camouflage et la cuirasse. Finalement, on n'en a plus besoin, au moins dans le petit couple que l'on a pu former. La nudité et la sexualité, enfin, le fait d'être sexué, explique aussi que l'homme se découvre à travers sa réalité corporelle, théologie du corps toujours, comme étant fait pour l'autre. Il est effectivement appelé à une relation avec Dieu, il est aussi appelé à une relation à l'autre. Et il va découvrir que la loi fondamentale, si on peut dire, qu'il a dans le cœur, c'est de se donner. Voilà. Je suis fait, on pourrait dire, à côté de l'autre, je suis fait avec l'autre et je suis surtout fait pour l'autre. Voilà. Au fond, du fond du cœur humain, il y a cette loi du don de soi-même, ce qu'on appelle la loi du don. Hein. Il y a un livre qui s'appelle « Eh bien, dites don ». Ça s'écrit « Eh bien, virgule, dites de point, don, point exclamation. Voilà. Eh bien, dites don. » C'est ça. C'est la loi du don qui est la loi fondamentale de l'être humain. Le fait de donner suppose donc une relation, et la plus belle relation est celle qui est consciente et réciproque. L'homme reçoit le monde comme un don venu de Dieu, et il peut le lui exprimer, par la louange. Par conséquent, l'homme reçoit aussi l'autre être humain comme un don venu de Dieu, il peut l'exprimer à Dieu, et puis il reçoit l'autre être humain comme un don spécial, parce que c'est un don qui lui-même est capable de faire des dons. Voilà. Le caillou ne peut pas, l'autre être humain le peut. Je reçois un don qui lui-même est libre et capable de réciprocité dans le don. Voilà. Ça fait une relation un peu bizarre, parce que dynamique dans le couple. Voilà. Les deux termes de la relation sont donc à la fois donneur et receveur. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, toujours pareil. L'homme est fait pour exister pour quelqu'un. Jean-Paul le dit, le corps exprime la féminité. Le corps qui exprime la féminité. Je vais y arriver. Le corps qui exprime la féminité pour la masculinité et vice-versa, la masculinité pour la féminité, manifeste la réciprocité et la communion des personnes. Toujours pareil, même idée. L'homme se comprend donc lui-même, il se comprend mieux, quand il se comprend comme fondamentalement appelé à se donner. Il est donc libéré de l'esclavage de son instinct pulsionnel, qui lui n'appelle pas au don, mais à la prise. Il peut le dominer cet instinct en lui donnant un sens, une signification, une orientation décidée, voulue et maîtrisée. Ça libère l'homme de décider, si on peut dire, de se donner. Ça ne peut faire que l'aider. Voilà. Le Concile Vatican II l'exprimait aussi, donc c'est Gaudium et Spes 24 cette fois-ci, en disant que l'homme ne peut se trouver pleinement que par le don désintéressé de lui-même. Désintéressé, difficile à traduire ou mal traduire. Plene se ipsum in venere non posse, nisi per sincerum sui ipsius donum. Ça va déjà beaucoup mieux. C'est le sincerum qu'on a traduit par désintéressé, c'est pas faux, mais sincerum ça veut dire. Votre humble serviteur le traduit par sans arrière-pensée. Sincerum, ça veut dire sans corps étranger, sans mélange, pur et simple. Voilà. Désintéressé, sans calcul. Sincère, mais voilà, dans le sens candide du terme. Du coup, comprenant ça, l'homme ne peut se trouver pleinement, ça aussi, hein, Jean-Paul Lull passe au stabilo, que par le don désintéressé de lui-même, que en se donnant gratuitement, généreusement, enfin, voilà, sans calcul, par pur amour, enfin, traduisez comme vous voulez, et c'est ça qui va épanouir le cœur humain. On n'est pas plus étonné que ça, normalement, d'entendre ça, parce que Jésus nous le rappelle dans la parabole du grain de blé. Hein. Si le grain de blé ne meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il porte du fruit. S'il se donne, ça marche, ça l'épanouit. Bon, si vous le dites, etc. On peut aussi se rendre compte de cette loi fondamentale de l'existence révélée par Dieu dans la Bible. Et si c'est vrai, on peut le constater hein, ailleurs. On peut le constater nous-mêmes. Alors, ou bien en se donnant de façon désintéressée, le sommeil du juste, ou bien ça épanouit, etc. On est heureux, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, gna gna. Même si recevoir, c'est sympa aussi. Il y a cette preuve positive, et puis il y a une preuve négative, si on peut dire, ou par l'absurde, c'est-à-dire on peut constater que la loi du don est profondément inscrite en l'homme, puisque les personnes qui ne la pratiquent pas se nécrosent. Ça n'épanouit pas si vous ne la pratiquez pas. C'est donc qu'il faut la pratiquer pour s'épanouir. Voilà. Vous regardez l'avare de Molière, il n'est pas extrêmement épanoui. Vous regardez l'égocentrique, il finit par shooter ou se suicider ou se je sais pas quoi. Enfin voilà. Celui qui ne se donne pas et n'est au service que de lui-même finit malheureux. C'est dingue quand même. Ben, on le constate tous les jours et la presse People est là justement pour nous le rappeler. Donc à nous de voilà, réaliser ça aussi et d'apprendre par cœur la petite phrase. En tout cas, se rendre compte à quel point c'est vrai. Voilà. Fin de la première partie de ce que j'avais à vous dire.